L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'EM en direct à midi et en rediff le soir même à 18h. Alors nous l'avions reçue plusieurs fois la saison dernière, elle était venue nous expliquer les tenants et les aboutissants des sciences participatives. Nous avions reçu avec elle les expertes de l'EPAGA, de l'IUEM, l'Institut Universitaire Européen de la Mer, et du LEMAR, le Laboratoire de l'Environnement Marin de l'IUEM, pour discuter des déchets en milieu aquatique. Et je suis très content de retrouver Julie Rionnier, gérante de Biodivertisson, qui revient pour la saison 8 du LEM. Bonjour Julie, comment ça va ?
Bonjour David, ça va et toi ? Et vous ?
Ben ça va, bon, c'est pas grave. Hein. Donc vous êtes animatrice environnementale et aussi apicultrice amatrice. Et vous avez décidé de lier ces deux activités. Alors d'abord, comment en êtes-vous venue à l'apiculture ?
Alors, j'ai découvert l'apiculture grâce à ma belle-sœur qui avait des ruches. Et en l'accompagnant sur le terrain et en l'aidant à intervenir sur son rucher, au fur et à mesure, j'ai mis les mains dedans. Et en fait, on a créé un collectif d'apiculteurs parce qu'on voulait échanger les uns avec les autres sur le territoire. Alors ça, c'était dans le Morbihan. Échanger, partager les connaissances, les pratiques, parce que c'est vraiment très large. Et du coup, j'en suis venue comme ça à l'apiculture. On a très vite récupéré un essaim et on s'est lancé dans la gestion de notre première ruche.
Alors, c'était 6 apiculteurs, c'était tous des amateurs amatrices ou c'était aussi des professionnels ?
Alors, sur le rucher, on n'était que des amateurs. Mais en fait, on a fait tout un travail quand on a créé le collectif. On a d'abord fait un travail de reconnaissance de qui faisait quoi où. Et nous, on avait un apiculteur professionnel sur la commune. Donc, on a pris contact avec lui et il nous a tous accompagnés, formés. Donc, il y avait vraiment les deux, un mélange d'apiculteurs amateurs et professionnels.
Vous avez trouvé aussi une structure pour vous former là-bas ?
Oui, alors tout à fait. En fait, de là, on a décidé, quand on s'est rendu compte de la complexité de tout ça et de toutes les connaissances que ça demandait, on s'est formé au groupement de défense sanitaire apicole du Morbihan, donc le GDSA 56, mais il y a des GDSA dans tous les départements. Et donc, on a suivi une formation de 3 ans, 4 ans avec le Covid, du coup, théorique et pratique.
Vous nous racontez un peu comment s'est passée la formation ? On apprend quoi ?
On apprend à découvrir l'abeille, à découvrir sa morphologie, à découvrir son mode de fonctionnement, son mode de communication, comment elle se nourrit, de quoi elle se nourrit et comment elle interagit avec son environnement, avec ses points forts et ses points faibles, tout ce qui est parasite, tout ce qui est maladie. Enfin, c'est vraiment très complet. Et puis, en parallèle de la partie théorique, on est au rucher. Donc là, c'était au lycée de Kerplouze, d'Auray. Et donc, on est au rucher du GDSA, à chaque fois que la météo le permettait, du coup. Et ça permet, entre le rucher de ma belle-sœur et entre le rucher du GDSA, de vraiment se rendre compte de ce que c'est qu'être apiculteur. Et là, on parle d'amateur. Et ce que ça demande de connaissances, d'adaptation, d'observation, de partage. Et de vraiment se former continuellement, parce que le sujet est très, très vaste.
Ouais. Alors, je ne sais pas si vous aurez la réponse à la question, mais pourquoi on appelle ça groupement de défense sanitaire ?
Parce qu'un des éléments, en fait, quand vous êtes apiculteur, donc on élève du vivant, l'apiculture, c'est le culture ou l'élevage des abeilles. Et dans toute culture, on doit maîtriser les parasites, les virus, les maladies. Qui touche ces colonies. Et donc, du coup, c'est aussi un suivi de l'enregistrement des ruchers, où ils se trouvent, et de traiter les ruchers, de les accompagner en fonction des maladies observées au fur et à mesure de la saison pour éviter qu'il y ait des transmissions, des contaminations trop importantes qui pourraient être fatales et qui sont la plupart du temps fatales pour cette espèce et les autres espèces avec lesquelles les abeilles interagissent.
Ouais. Alors c'était quoi du coup les objectifs de ce groupement ?
du collectif des apiculteurs. C'était de partager les connaissances, de se regrouper, de partager les connaissances, partager également le matériel, de s'accompagner mutuellement sur le terrain pour apprendre les bons gestes, voir d'autres manières de faire. Et aussi, on s'est rapproché de la mairie qui voulait également avoir une cartographie en fait des ruchers disponibles sur la commune, pour se rendre compte de combien d'apiculteurs il y avait, combien il y avait de ruches. Il y a une question qu'on s'est posée tout de suite, et c'est une question que moi je me pose encore aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on sait que notre territoire il est saturé quand on met une ruche d'abeilles en l'occurrence, parce qu'on le verra plus tard au niveau des questions, mais c'est un équilibre qui est précaire. Et quand on amène une ruche à un endroit, ça modifie cet équilibre. Donc c'est voilà une question. S'il y a des sources et des pistes de réponse, je suis preneuse.
D'accord. Alors du coup, là, si j'ai bien compris, ça c'était quand vous étiez dans le Morbihan, mais là en ce moment vous êtes dans le Finistère.
Oui.
Alors vos ruches, elles sont toujours dans le Morbihan ?
Non, on a déménagé avec nos ruches.
Est-ce que vous avez fait l'acquisition de plusieurs ?
Oui, alors au début, on a commencé avec une, et en fait, au fur et à mesure des saisons, pour permettre à la colonie d'être adaptée en fait, à son habitat, un des rôles de l'apiculteur, c'est d'adapter la taille de cet habitat. Et quelquefois, on fait des bêtises, et il y a la moitié en fait, de la ruche, ça s'appelle un essaimage, qui part. Et donc l'objectif après, c'est d'essayer de récupérer cette autre moitié pour conserver la colonie, la reine. Et donc au fur et à mesure des saisons, on peut augmenter son cheptel, notamment de cette manière-là, soit avec des essaimages involontaires, soit en divisant en fait, les colonies pour leur permettre d'être adaptées à la gestion en fait,
que l'on mène. Vous avez fait ça toute seule ou vous avez trouvé quelqu'un pour vous aider
Alors, j'ai la chance de pouvoir faire ça avec mon mari. On a une passion commune. Et c'est vrai que ça nous permet de jamais être tout seul au rucher. Ça, c'est un grand point. Et puis, de gérer à deux. On s'enregistre pour vraiment... parce que quand on ouvre une ruche, on a vraiment beaucoup d'informations d'un coup. Et ce n'est pas forcément évident de prendre les décisions sur le court terme comme ça tout de suite. Et donc, on s'enregistre et ça nous permet de réécouter tout ça à froid. Et en cas de doute ou de problème ou de questionnement un peu particulier, de se documenter puis de prendre les bonnes décisions derrière.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que vous êtes rentré, on va dire, entre guillemets, dans une ruche, parce qu'on ne peut pas rentrer dans une ruche, c'est n'importe quoi, mais vous avez mis les mains dedans, parce que si vous êtes animatrice environnementale, j'imagine que vous avez pu percevoir plein de choses avec vos yeux, vos oreilles, surtout les oreilles, parce que ça doit être super bruyant, j'imagine. Puis avec l'odeur aussi, donc j'imagine que toutes ces petites choses-là, elles sont très intéressantes dans le cadre de votre profession.
Oui, parce que pendant ma formation, je sais ce qu'est la pollinisation, qui sont les pollinisateurs, leur rôle, etc. Mais c'est vrai que moi, la première fois que je suis allée à un rucher et qu'on a ouvert une ruche et que j'ai vu l'intérieur d'une ruche, en fait, ça m'a rappelé la première fois que j'ai fait une plongée sous-marine. C'est comme si on est happé dans un autre monde et en fait, c'est un peu comme si nos sens étaient réinitialisés. On rentre dans une autre dimension.
C'est-à-dire ?
Du coup, on oublie tout parce qu'on est vraiment happé par la ruche. Hein. Il ne faut pas oublier que dans une ruche, on peut, en pleine saison, il peut y avoir 60 000 individus. Donc, c'est beaucoup. Et puis, on est entre cette peur qu'on peut avoir quelquefois des insectes, de la piqûre, d'avoir mal. Et puis, ce merveilleux mélange où on a tout de suite les yeux qui sont pris dans la ruche, le bruit, on a un bourdonnement permanent qui est quand même effectivement comme tu le disais très très présent. Et puis on a toutes ces odeurs qui remontent de la ruche, des odeurs de bois, de fleurs, de miel, de propolis, enfin un mélange qui est assez exquis, je trouve.
C'est quoi ce propolis?
Alors la propolis, c'est une pâte que les abeilles utilisent pour imperméabiliser, pour désinfecter et pour obstruer tous les trous qu'il pourrait y avoir dans la ruche pour vraiment la rendre hermétique et la rendre complètement propre.
C'est quoi comme genre d'odeur ? Est-ce qu'on peut définir cette odeur ou pas ?
C'est une bonne question. Comment on définirait l'odeur de la propolis ? Il faudrait que je t'en rapporte et on essaiera de la définir.
Ah, je veux bien, ouais.
Ouais. Parce que c'est, on a en pharmacie tout ce qui est médical. La propolis, c'est un antiseptique, c'est un désinfectant. Il y a des pastilles, des choses comme ça pour les maux de gorge. Tout ça, c'est voilà, on l'utilise en médecine.
Mais c'est ça la fameuse odeur, saveur miel.
Alors non,
non, c'est pas ça.
Non, pas trop. Non, c'est plus un mélange entre de la résine de la sève, pardon, pas de la résine, de la sève et en même temps, c'est compliqué. Il faudrait que je réfléchisse à cette question pour te donner pour te donner plus d'éléments. Mais voilà, c'était un mélange de.
En tout cas, on est obligatoirement happé.
En tout cas, moi je l'ai été. Ouais, moi je l'ai été. Ça serait intéressant de poser la question à d'autres apiculteurs ou même à des enfants avec qui moi j'ai fait des ateliers où on les emmenait au rucher où on avait des enfants qui étaient qui avaient très peur, qui avaient vraiment des peurs paniques et puis donc on met en place des gestes si vraiment ils ont vraiment trop peur et on quitte le rucher mais au final après coup ils nous ont dit mais en fait j'ai pas eu peur, j'étais tellement tellement impressionnée, tellement émerveillée que j'ai oublié ma peur. Et c'est un peu ça que ça fait. Enfin, c'est même complètement ça que ça fait.
Est-ce que c'est une raison pour laquelle vous n'êtes pas passé pro ?
Alors, non, pas vraiment. En fait, je me suis dit, quand on a commencé, il y a trop de choses que je ne connais pas. Il y a trop de choses que je ne maîtrise pas ou que je peux même, peut-être même pas maîtriser plutôt. Du coup, avec le métier que je fais, je l'ai plutôt pris comme une expérience et comme une source d'enrichissement, de questionnement, de remise en question et de faire découvrir ça à d'autres. Et du coup, je me suis dit, je sais pas si je pourrais le faire, si je serais capable de le faire déjà, physiquement. Et avec ce poids de toute la gestion et être apiculteur professionnel, c'est une expertise qui est extrêmement complexe, extrêmement pointue. Il faut des années et des années de pratique. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Parce que pour que ça soit rentable, il faut pas 2 ruches ou 5 ruches, il en faut vraiment beaucoup plus. Et c'est cette notion de rentabilité, en fait, après, derrière, qui peut quand même compliquer la gestion. Et on travaille avec du vivant. Donc il y a un gros degré d'incertitude. Enfin, en tout cas, voilà, c'est très intéressant d'échanger avec les apiculteurs professionnels parce que ça nous remet un peu en question quelque chose qui, aujourd'hui, est quand même bien mis en avant comme une passion ou comme un loisir. C'est pas du loisir tous les jours, même en tant qu'amateur.
Oui, on verra ça d'ailleurs tout au long de l'année, on vous expliquera ça un petit peu plus tard. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors on a compris d'un point de vue un petit peu personnel l'effet que ça vous a fait de travailler avec des abeilles, mais qu'est-ce que ça peut vous apporter en tant qu'éducatrice environnementale ?
J'y étais en fait déjà convaincue avant que toutes les questions sur la biodiversité, enfin sur la protection des écosystèmes, de la biodiversité, ce sont des sujets qui sont beaucoup plus grands que nous. Mais là, je me suis encore plus rendu compte de l'interconnexion de tous les éléments. Et donc, du coup, ça m'a poussé à me poser encore plus de questions, à échanger encore plus avec des collègues, avec d'autres professionnels, même qui sortent complètement sur des domaines qui sortent complètement de mes domaines de prédilection. Et ça m'a encore plus convaincue qu'il fallait travailler en réseau, qu'il fallait travailler ensemble et choisir des partenaires avec lesquels on partage des valeurs. Parce que le but, c'est d'avancer tous ensemble pour traiter ces questions qui nous dépassent, mais qui sont vraiment plus grandes que nous, quoi.
On entend toujours dire que les abeilles, elles ont des comportements, elles ont un fonctionnement qui est assez proche de l'humain. C'est de l'info ou c'est de l'intox ?
Il y a des points communs. Enfin, quand tu m'as demandé de préparer ces questions-là, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, en fait, il y a des points communs et il y a des différences. Dans les différences, enfin une des différences notables en tout cas que moi je perçois, c'est que pour les abeilles, il y a un sens du collectif qui est extrême, puisque le but c'est vraiment de vivre et de faire survivre la colonie, qu'importe ce qui se passe, et il n'y a pas d'intérêt individuel. Alors que chez l'humain, c'est vrai qu'on est amené souvent à travailler en collectif, mais quelquefois, les intérêts personnels peuvent dépasser l'intérêt collectif. Ça, c'est une des premières différences que moi j'avais, qui me semble intéressante de noter. Également, comment dire également, en fait, on est connecté à notre environnement, tous. Mais en même temps, les abeilles, elles, je ne sais pas qu'elles ont conscience, mais elles font en fonction de l'environnement. Du coup, elles n'ont aucune action qui va dégrader cet environnement. Alors que l'humain, même si je pense qu'on est tous au courant que sans notre planète, la biodiversité, les écosystèmes, on n'est plus, on a quand même quelquefois au quotidien des actions qui va abîmer ça et qui peut, à terme, remettre en question la survie de l'espèce. Donc ça, c'est une autre grosse différence que j'ai trouvée intéressante de noter.
Est-ce qu'elles se battent, les abeilles, entre elles ? Est-ce que deux ruches peuvent rentrer en conflit ?
Oui, tout à fait. Quand je disais tout à l'heure, on en reparlera tout à l'heure, mais quand je disais tout à l'heure que quand on met une ruche à un endroit, on peut modifier l'équilibre de l'écosystème ou du biome qui est autour, il faut savoir qu'une ruche, si vous rajoutez des bouches à nourrir et que la ressource à côté elle reste la même, forcément la compétition entre les individus elle va grandissante, puisque elles ont chacune l'objectif de faire survivre leur colonie. Donc oui, elles peuvent tout à fait se piller et être en compétition pour de la ressource. Ouais,
okay. Un petit peu comme nous, quoi. Il y a d'autres points communs que
Oui, j'ai noté d'autres points communs. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Oui, j'avais noté, je trouvais ça intéressant, les modes de communication des espèces, que ce soit l'homme comme les abeilles. On a des modes de communication assez complexes qui peuvent passer par les odeurs, les phéromones, donc toute la communication chimique qu'on peut avoir entre les individus, mais également tout ce qui est tactile, tout ce qui est visuel avec les couleurs et les formes. Donc ça, c'est un point commun que je trouve intéressant. Et aussi, je me suis dit, l'homme comme les abeilles, on est dépendant, ou en tout cas, on est réglé sur le rythme du soleil pour notre vie, en fait. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant.
Les abeilles, elles ne travaillent pas la nuit.
Non. Elles restent à l'intérieur de la ruche la nuit.
Elles se reposent.
Ouais, elles continuent à travailler à l'intérieur, mais à l'intérieur.
D'accord.
Elles ne sortent pas.
D'accord. Alors, donc, on avait entamé l'année dernière tout un truc sur les déchets, les pollutions, tout ça. Est-ce que les abeilles... Alors, on se doute bien avec les pesticides, ça, je pense qu'on le sait, on le répète tout le temps et on ne le répétera jamais assez. Est-ce que les abeilles sont sensibles aux déchets plastiques, par exemple, à ce genre de pollution ?
Alors, encore une fois, quand tu m'as demandé de préparer cette question-là, du coup, je me suis informée un peu parce que je me suis dit, oui, ça paraît, je ne sais pas trop, mais ça me paraîtrait assez logique que, comme nous, elles puissent être impactées par les déchets plastiques et les pollutions qui en émanent.
Oui, parce que en fait, quand on imagine une abeille, on l'imagine en train de butiner sa petite fleur. Voilà. On imagine mal du plastique arriver sur une petite fleur. Et puis l'abeille, à la limite, elle est tellement petite, ou même elle est grosse par rapport au petit bout de plastique, qu'elle ne va pas s'amuser à trier, en fait. Enfin, elle ne va pas s'amuser à bricoler son bout de plastique. Non, elle va aller directement sur la fleur. On n'imagine pas ça. Et pourtant, ce n'est pas le cas.
En fait, il y a différents types d'abeilles. Là, les abeilles dont on parle qui sont dans les ruches, c'est les abeilles mellifères. Mais après, il y a toutes les abeilles sauvages aussi. Et une des particularités des abeilles sauvages, donc celles qui sont dans la nature, que nous, on peut apercevoir, mais qui font pas partie d'une gestion dans l'apiculture, elles vont utiliser différents matériaux dans la nature pour construire leur nid et pondre les œufs. Il y en a une qui fait partie du genre Megachile, c'est une découpeuse de végétaux. Et en fait, il y a des scientifiques allemands qui ont découvert des nids, des cocons d'abeilles qui avaient été faits avec des fragments de plastique. Donc elles sont allées, ces méga-chilles, si vous regardez un peu dans votre jardin, vous avez des feuilles comme les rosiers, comme les hortensias qui sont un peu coriaces. Si vous voyez un découpage très net, un peu ovale sur les côtés, c'est que vous avez des abeilles sauvages dans un périmètre de 100 à 200 mètres autour de chez vous. Et elles ont fait la même chose avec du plastique, que je trouve assez fou. Et il y a eu également une autre étude qui a été pareille, où j'ai trouvé des informations. On utilise beaucoup dans le monde, il y a beaucoup de scientifiques qui utilisent les abeilles comme des sentinelles de la pollution. Donc ils l'ont fait pour des métaux lourds, pour la pollution chimique, notamment pour les pesticides. Ils ont récupéré des abeilles sur un périmètre. Ils ont analysé ce qu'il y avait dans leurs poils, parce que c'est comme ça qu'elles captent notamment le pollen. Et ils ont trouvé 15 à 30% de microplastiques dans leurs poils. Donc elles captent en plus ce qu'il y a dans l'air, nous, les microparticules que nous, on inhale. Elles aussi, elles les récupèrent, et donc elles les ramènent dans les ruches ou dans leur nid. Donc ensuite, derrière, on peut imaginer les répercussions chimiques que ça peut avoir.
Et puis des dégradations, même au sein même de la ruche, j'imagine, un non-développement des abeilles et tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut mettre une ruche dans son jardin ?
Ben oui, on peut tout à fait. Après, je dirais que je pense qu'il y a quelques grandes étapes avant de mettre une ruche. Il y a quelques grandes étapes, puis ça va surtout dépendre de l'espace et du terrain et de la configuration. Mais avant de mettre une ruche, pour moi, on l'a dit avec la particularité du passage en professionnel, pour moi, il y a une grande étape à faire, c'est de se former, d'acquérir de la connaissance, des compétences, se former, accompagner d'autres apiculteurs chevronnés pour se rendre compte de ce que c'est que gérer une ruche. Et encore, on intervient ponctuellement. Mais ça, je pense que c'est un point très important. La deuxième chose, je dirais qu'il faut... Il faut étudier son environnement. Mettre une ruche, comme je disais tout à l'heure, moi je suis persuadée que les abeilles, on parle des abeilles sauvages, mais elles n'ont pas besoin de l'homme pour trouver un habitat et trouver de la nourriture. À partir du moment où on met une ruche, ça veut dire qu'il va falloir la gérer. Ça veut dire qu'elle va être aussi dépendante de l'homme pour survivre. Et il faut garder en tête que, comme je le disais tout à l'heure, 60 000 individus en plus dans un espace avec une ressource finie, forcément, ça va venir déséquilibrer l'écosystème.
Alors, je pense à un truc là. Les fameux hôtels à insectes qu'on pense mettre pour être gentil avec les abeilles, ça ne fonctionne pas.
Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que... Pour moi, il n'y en a pas forcément besoin et ça va regrouper des espèces qui, peut-être dans la nature, ne sont pas regroupées aux mêmes endroits. Donc, est-ce qu'elles vont interagir les unes avec les autres ou est-ce qu'elles vont apporter peut-être des parasites ou est-ce que tout va bien se passer ? Je ne sais pas, mais je ne suis pas persuadée que mettre des araignées à côté des abeilles et à côté des coccinelles, ça soit forcément cohérent. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est une question que je me pose. Je me dis, dans la nature, est-ce qu'elles ont des habitats si proches ? Je n'ai pas l'impression. Mais en général, j'essaie plutôt d'utiliser dans mon jardin, d'utiliser les espaces naturels ou les éléments naturels qui s'y trouvent. Par exemple, quand je coupe des branches, au lieu de les broyer ou de les mettre à la déchetterie, je fais un tas de branches. Ça va être un habitat pour le hérisson, mais ça peut aussi, à l'intérieur de la fibre des branches, permettre à des insectes de faire leur nid, par exemple. C'est d'essayer de réfléchir plutôt comme ça, d'essayer de moins intervenir. Mais peut-être que également en observant l'environnement autour, on va se rendre compte qu'il y a d'autres ruches. Et peut-être que la solution, ce n'est pas de mettre une ruche, mais c'est peut-être plutôt de travailler sur la biodiversité de l'espace.
Voilà. Et puis observer son environnement, bien sûr.
Tout à fait.
On verra tout ça donc, au fil de l'année avec Julie. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et on se retrouve donc très bientôt pour débuter une série d'observations sur la ruche, et ça en automne.